À l'époque du championnat du monde de 1950, l'année où les petits génies de Philadelphie en ont tombé quatre de suite, vous vous souvenez, Andy n'a plus jamais eu d'ennui avec les chiennes. Stamas et Hadley avaient fait passer le mot. Si Andy Dufresne venait les voir, eux ou n'importe quel maton de leur coterie, avec ne fût-ce qu'une seule goutte de sang dans son caleçon, toutes les chiennes de Shawshank iraient se coucher le soir même avec la migraine. Elles n'ont rien tenté. Comme je l'ai déjà dit, elles avaient toujours sous la main un voleur de voiture de 18 ans ou un type qui s'était envoyé en l'air en tripotant des gosses. Après le jour du goudron sur le toit, Andy est allé de son côté et les chiennes du leur. Il s'est donc mis à travailler à la bibliothèque, sous les ordres d'un vieux tolard endurci, Brooks Atlen. Atlen avait eu ce boulot à la fin des années 20 parce qu'il avait été étudiant. À vrai dire, c'est un diplôme d'élevage fermier qu'il avait obtenu, mais dans les établissements d'enseignement inférieur comme Shawshank, les universitaires sont si rares que c'est comme l'histoire du borgne chez les aveugles. Brooksy, qui avait tué sa femme et sa fille après une mauvaise passe au poker quand Coolidge était président, a été libéré sur parole en 1952. Comme d'habitude, l'État, dans toute sa sagesse, le laissait partir longtemps après qu'il n'eut plus la moindre chance de devenir un être utile à la société. À 68 ans, arthritique, il a passé le portail en boitillant avec un costume polonais et des chaussures françaises, son billet de sortie dans une main et un ticket de car dans l'autre. Il pleurait en s'en allant. Shawshank était son univers. Ce qu'il y avait au-delà des murs était pour lui aussi terrible que les mers occidentales l'étaient pour les marins superstitieux du XVe siècle. Brooksy, en prison, avait été un personnage de quelque importance. Il était un homme cultivé, le bibliothécaire en chef. S'il allait demander du travail à la bibliothèque de Kittery, on ne lui donnerait même pas une carte de lecteur. J'ai appris qu'il est mort dans un hospice pour vieillards de Freeport en 1953. Ce qui fait qu'il a tenu 6 mois de plus que je n'aurais cru. Ouais, je crois que l'État s'est bien payé sur la bête avec Brooksy. On l'a dressé à aimer son trou à merde, et ensuite on l'a foutu dehors. Andy a pris la succession de Brooksy, et il a été bibliothécaire en chef pendant 23 ans. Quand il voulait obtenir quelque chose, il y apportait la même force de volonté que je l'avais vu employer sur Hadley. Et il a fait peu à peu d'une petite pièce, sentant encore la térébenthine, on y rangeait la peinture jusqu'en 1922 et on ne l'avait jamais convenablement aérée, tapissée par les livres condensés du Reader's Digest et des National Geographics, la meilleure bibliothèque pénitentiaire de la Nouvelle-Angleterre. Il s'y est pris pas à pas. Il a mis une boîte à idées près de la porte, triant patiemment les tentatives d'humour comme « Encore des livres de baise » ou « L'évasion en dit leçon facile ». Il s'est procuré ce à quoi les détenus semblaient vraiment tenir. Il a écrit aux principaux clubs du livre de New York et obtenu de 2 d'entre eux, la Guilde littéraire et le Club du livre du mois, qu'ils nous envoient leur sélection à un prix de faveur. Il a découvert une soif d'informations sur des passe-temps tels que la sculpture sur savon, l'ébénisterie, la prestidigitation et les réussites aux cartes, et acheté tous les livres qui s'y rapportaient. Et ceux des 2 vedettes des prisons. Earl Stanley Gardner et Louis Lamour. Les tolards ne se lassent ni du tribunal, ni des grands espaces. Et, oui, bien sûr, il gardait un carton de bouquins salés sous le bureau d'inscription et ne les prêtait qu'en s'assurant qu'il lui reviendrait. Mais chaque nouvelle acquisition de ce genre était quand même très vite réduite en lambeaux à force d'être lue. C'est en 1954 qu'il se mit à écrire au Sénat de l'État, à Augusta. Stamas était devenu directeur, et il faisait comme si Andy était une sorte de mascotte. Il passait son temps à la bibliothèque à raconter des blagues, et il lui arrivait même de passer son bras sur les épaules d'Andy ou de lui donner des bourrades. Ce qui ne trompait personne. Andy Dufresne ne serait jamais une mascotte. Il lui disait qu'il avait bien pu être banquier, jadis, mais que cette période de sa vie disparaissait dans le passé et qu'il lui fallait se faire à la réalité de la prison. Pour ces parvenus d'Augusta, les républicains rotariens du Sénat, il n'y avait que 3 façons de dépenser l'argent du contribuable quand il s'agissait de prison et de pénitencier. Premièrement, encore des murs. Deuxièmement, encore des barreaux. Troisièmement, encore des gardiens. Pour ces gens-là, lui expliqua Stamas, les gars de Thomas Tan, Shawshank, Pittsfield et South Portland étaient la lie de la terre. Ils étaient là pour tirer leur temps à la dure. Et par Dieu et le petit Jésus, ce serait vraiment à la dure. Et s'il y avait quelques charançons dans le pain, putain, quel dommage, non ? Andy avait son petit sourire tranquille et demandait à Stamas ce qui arriverait à un bloc de béton s'il lui tombait dessus une goutte d'eau par an pendant 1 million d'années. Stamas riait et lui donnait une claque dans le dos.
« Tu n'as pas 1 million d'années, vieille carne, mais si tu les avais, je crois que tu les tirerais avec le même petit sourire sur ta gueule. Continue, écris tes lettres, je te les mettrai même à la poste si tu payes les timbres. »
Andy a continué. Et c'est lui qui a ri le dernier, même si Stamas et Adeline n'étaient plus là pour le voir. Les demandes de crédit pour la bibliothèque ont été régulièrement refusées jusqu'en 1960, année où il reçut un chèque de $200, probablement accordé par le Sénat dans l'espoir qu'il leur foutrait la paix. Espoir déçu. Andy eut le sentiment d'avoir en quelque sorte glissé un pied dans la porte, et il redoubla d'efforts. 2 lettres par semaine au lieu d'une. En 1962, il eut $400, et pendant 8 ans, il eut $700 qui tombèrent régulièrement chaque année. En 1971, c'était monté à $1 100. Pas grand-chose à côté de ce que reçoit la moindre bibliothèque de province, j'imagine, mais $1000 peuvent payer un bon tas de Perry Mason et de Jake Logan d'occasion. Vers la fin, en entrant dans la bibliothèque, sorti de son placard originel pour occuper 3 pièces, on y trouvait presque tout ce qu'on pouvait désirer. Et si cela ne s'y trouvait pas, il y avait de bonnes chances pour que Andy puisse vous le trouver. Maintenant, vous vous demandez si tout ça n'est venu que parce que Andy a dit à Byron Hadley comment ne pas payer d'impôts sur son héritage inespéré. La réponse est oui et non. Vous pouvez probablement deviner vous-même comment ça s'est passé. Shawshank abritait un petit génie de la finance apprivoisé. Voilà la rumeur qui a couru. À la fin du printemps et au début de l'été 1950, Andy a monté une mutuelle pour les gardiens voulant assurer des études universitaires à leurs enfants, a donné des conseils à 2 d'entre eux qui voulaient se constituer un petit portefeuille, et ils s'en sont drôlement bien tirés, en fait, si bien même, pour l'un des deux, qu'il a pu prendre une retraite anticipée 2 ans plus tard. Et du diable s'il n'a pas montré au directeur Georges Dunahy, cette vieille tête de citron pressé, à se mettre à l'abri des impôts. C'était juste avant que Dunahy se fasse lourder, et je crois qu'il rêvait aux millions que son bouquin allait lui rapporter. En avril 1951, Andy faisait les déclarations de la moitié des matons de Shawshank, et en 1952, il les faisait presque toutes. Il était payé avec ce que la prison a de plus précieux, en bonne volonté. Plus tard, quand Stamas a pris le fauteuil de directeur, Andy est devenu encore plus important. Mais si je voulais vous donner des précisions, ce serait à l'aveuglette. Il y a des choses que je sais et d'autres que je peux seulement deviner. Je sais que certains prisonniers recevaient toutes sortes d'attentions particulières, des radios dans leurs cellules, des visites spéciales, des choses comme ça, et qu'il y avait dehors des gens qui payaient pour ces privilèges. Les détenus appellent ces gens des anges. Tout d'un coup, un type était dispensé de travailler sur le toit de la fabrique le samedi matin, et on comprenait que ce type avait dehors un ange qui avait craché un paquet de blé pour que ça se passe comme ça. Habituellement, l'ange refile le pot de vin à un maton au milieu de l'échelle, et le maton graisse les barreaux administratifs vers le haut et vers le bas. Et puis, il y avait le garage clandestin qui avait lessivé Dunahy. Le garage est rentré sous terre pendant un certain temps et a émergé plus fort que jamais à la fin des années 50. Et les entrepreneurs qui faisaient de temps en temps des travaux à la prison versaient des commissions au sommet de l'administration, j'en suis à peu près sûr. Ce qui était presque sûrement vrai aussi pour les compagnies fournissant les machines de la blanchisserie, de la fabrique de plaques et de la presse à emboutir installée en 1963. À la fin des années 60, il y a eu aussi un boom sur les pilules. Et la même bande d'administrateurs s'arrangeait pour prélever sa dîme. Le tout faisait une jolie rivière de revenus occultes. Pas comme les paquets de fric illégales qui doivent circuler dans les grandes prisons comme Attica ou Saint-Quentin, mais pas des clopinettes non plus. Et au bout d'un temps, l'argent en soi devient un vrai problème. On ne peut pas le fourrer simplement dans son portefeuille et sortir un tas de billets de 10 et de 20 froissés et déchirés quand on veut se faire construire une piscine dans son arrière-cour ou une pièce supplémentaire. Passé un certain point, il faut expliquer d'où vient l'argent. Et si vos explications ne sont pas convaincantes, vous pouvez vous retrouver avec un numéro sur le dos. Ainsi, les services d'Andy répondaient à un besoin. Ils l'ont sorti de la blanchisserie et installé dans la bibliothèque, mais d'un autre point de vue, ils ne l'ont jamais sorti de la blanchisserie. Ils lui ont fait blanchir de l'argent sale au lieu de blanchir du linge. Il en faisait des actions, des obligations, des emprunts municipaux dégrévés d'impôts, tout ce que vous voulez. Un jour, environ 10 ans après cette histoire sur le toit de la fabrique de plaques, il m'a dit qu'il n'avait aucun scrupule à faire ce qu'il faisait, qu'il se sentait la conscience relativement tranquille. Avec ou sans lui, les rackets auraient continué. En plus, il n'avait pas demandé à vivre à Shawshank. Il était un innocent martyrisé par une poisse colossale. Pas un missionnaire ni un militant. « Par-dessus le marché, Red, » m'a-t-il dit avec son éternel demi-sourire. « Ce que je fais ici n'est pas si différent de ce que je faisais dehors. Prends ça comme un axiome plutôt cynique. L'expertise financière que demande un individu ou une entreprise est en rapport direct avec le nombre de gens que cet individu ou cette entreprise est en train de baiser. Les types qui dirigent cet endroit sont pour la plupart des monstres stupides et brutaux. Ceux qui gouvernent à l'extérieur sont brutaux, monstrueux, mais pas stupides à ce point, parce qu'on y exige tout de même un peu plus de compétences. Pas beaucoup, mais un peu. « Mais les pilules, » ai-je dit, « je veux pas te dire ce que tu dois faire, mais ces trucs-là m'inquiètent. Des rouges, du speed, des calmants, du nambutal. Maintenant, il y a ce qu'ils appellent des phases 4. Je toucherai jamais à ces trucs-là. L'ai jamais fait. Non, je n'aime pas les pilules, moi non plus. Jamais aimé. Mais je ne suis pas très branché sur le tabac ou la gnôle. Et je ne vends pas de pilules. Je ne les fais pas entrer, et quand elles sont là, je n'en vends pas. Ce sont surtout les matons qui le font. Mais, ouais, je sais. La frontière est imprécise. Ça revient à dire, Red, qu'il y a des gens qui refusent absolument de se salir les mains. On les appelle des saints. Les pigeons se posent sur leurs épaules et chient sur leurs chemises. L'autre extrême, c'est de se plonger dans la merde et de fourguer n'importe quelle saloperie pour du fric. Des flingues, des crans d'arrêt, de l'héros, rien à foutre. Il y a déjà eu un tolard pour venir te proposer un contrat. J'ai hoché la tête. C'est arrivé des tas de fois au fil des ans. Après tout, on est le type qui peut tout avoir. Et ils se disent que si on peut leur avoir des piles pour leur transistor ou des cartouches de Lucky ou des sachets d'herbe, on peut les brancher sur un type sachant jouer du couteau. Bien sûr, a continué Andy, mais tu le fais pas. Parce que des types comme nous, Red, on sait qu'il y a une troisième voie. Entre rester blanc comme neige et se vautrer dans la boue. C'est le choix que font tous les adultes dans le monde entier. On évalue son trajet dans la porcherie d'après ce que ça vous rapporte. On choisit le moindre de deux mots et on essaye de ne pas perdre de vue ses bonnes intentions. Et je suppose qu'on sait où on en est si on arrive à dormir la nuit. Et d'après les rêves qu'on fait.
Les bonnes intentions ?
J'ai ri.
Je connais ça par cœur, Andy. N'importe qui peut trotter tout droit en enfer en les suivant.
Ne crois pas ça, a-t-il dit, soudain plus sombre. L'enfer, c'est ici. Ici au trou. Ils vendent leurs pilules et je leur dis quoi faire du fric. Mais j'ai aussi la bibliothèque et je connais 2 douzaines de gars qui s'en sont servis pour passer l'examen d'entrée à l'université. Peut-être qu'en sortant d'ici, ils seront capables de se traîner hors du fumier. Quand on a eu besoin d'une seconde pièce, en 57, je l'ai eue. Parce qu'ils veulent que je sois content. Je suis pas cher. C'est ma monnaie d'échange.
Et t'as tes appartements privés ?
Bien sûr. C'est ce qui me convient. La population de la prison avait lentement augmenté au cours des années 50 et quasiment explosé dans les années 60, quand le moindre lycéen américain a voulu essayer la dope avec les peines parfaitement ridicules infligées à celui qui fumait un joint. Mais Andy n'avait jamais eu de compagnon de cellule, sauf un Indien. Un grand type silencieux qui s'appelait Normaden. On l'appelait chef, comme tous les Indiens de Shawshank, et qui n'était pas resté longtemps. La plupart des longues peines trouvaient qu'Andy était dingue, mais il souriait. Il vivait seul et il aimait ça. Or, comme il le disait, il voulait qu'il soit content. Il n'était pas cher. En prison, le temps passe lentement. Parfois, on jurait qu'il s'arrête, mais il passe. Il passe. Georges Dunahy a quitté la scène sous une tornade de gros titres hurlants, scandale et corruption. Stamas lui a succédé et pendant 6 ans, Shawshank a été l'enfer sur terre. Pendant le règne de Greg Stamas, les lits de l'infirmerie et les cellules d'isolement n'ont pas désempli. Un jour de 58, je me suis regardé dans le petit miroir de poche de ma cellule et j'ai vu un type de 40 ans qui me regardait. En 38, c'est un gosse qui était entré. Un gosse avec une tignasse de cheveux carottes, à moitié fou de remords, pensant au suicide. Ce gosse n'existait plus. Les cheveux roux grisonnaient, se dégarnissaient. Des pas de doigts lui encadraient les yeux. Ce jour-là, j'ai pu voir à l'intérieur le vieil homme qui attendait son heure. J'ai eu peur. Personne n'a envie de vieillir au trou. Stamas a ripé début 1959. Plusieurs journalistes étaient venus renifler dans le coin. L'un d'entre eux avait même tiré 4 mois sous un faux nom et pour un crime inventé de toutes pièces. Il s'apprêtait à crier à nouveau « scandale et corruption », mais Stamas s'est tiré avant le coup de massue. « Je comprends ça, mon gars. Oh oui. Si on l'avait jugé puis condamné, il aurait pu se retrouver ici même. Dans ce cas, il aurait peut-être survécu 5 heures. » Byron Hadley était parti 2 ans plus tôt. Le crétin avait une crise cardiaque et avait pris une retraite anticipée. Andy n'a pas été éclaboussé par l'affaire Stamas. Un nouveau directeur a été nommé début 59, un nouveau sous-directeur et un nouveau surveillant-chef. Pendant les 8 mois qui ont suivi, Andy n'a plus été qu'un prisonnier parmi les autres. C'est pendant cette période que Norma Den, le grand métis de Passamaquoddy, a partagé sa cellule. Et puis, tout est reparti. On a déménagé Norma Den et Andy a retrouvé son splendide isolement. Au sommet, les noms changent, les raquettes demeurent. Un jour, j'ai parlé d'Andy avec Norma Den.
Un mec sympa, a lâché l'Indien.
Difficile de comprendre ce qu'il disait. Il avait un bec de lièvre et un palais fendu, et il n'en sortait qu'une bouillie de mots.
J'aimais bien là-bas, mais il ne voulait pas de moi. Je le savais.
Haussement d'épaules massif.
J'ai été content de partir, moi. Sale courant d'air dans la cellule. Tout le temps froid. Il ne laisse personne toucher ses affaires. C'est ok. Mec sympa, jamais foutu de moi. Mais sale courant d'air.
Rita Hayworth est restée au mur de sa cellule jusqu'en 1955, si je me souviens bien. Puis ce fut Marilyn Monroe. La photo de 7 ans de réflexion, où elle est sur une grille de métro avec sa jupe relevée par l'air chaud. Marilyn a duré jusqu'en 60, et elle avait l'air d'avoir beaucoup vécu quand Andy l'a remplacée par Jane Mansfield. Jane, c'était un buste, pardonnez-moi cette expression. Environ 1 an plus tard, c'est une actrice anglaise qui a pris sa place. Peut-être Hazel Court, mais je n'en suis pas sûr. En 66, l'anglaise a chuté et Raquel Welch s'est fait engager pour une durée record de 6 ans dans la cellule d'Andy. La dernière affiche a été celle d'une jolie chanteuse de rock country qui s'appelait Linda Ronstadt. Une fois, je lui ai demandé le sens que ces affiches avaient pour lui. Et il m'a jeté un regard étrange, un peu surpris. « Oh, elle signifie pour moi la même chose que pour la plupart des tolards, j'imagine. » La liberté. On regarde ces jolies femmes et on sent comme si on pouvait presque, pas vraiment, mais presque passer à travers et se retrouver à leur côté. Être libre. Je crois que c'est pour ça que j'ai toujours préféré Raquel Welch. Ce n'est pas seulement elle. C'est cette plage où elle est. On aurait dit quelque part au Mexique, un endroit tranquille où un type peut s'entendre penser. Tu n'as jamais eu cette impression avec une image, Red, que tu pourrais presque passer de l'autre côté? J'ai répondu que je n'avais jamais eu précisément cette idée-là. Peut-être qu'un jour tu verras ce que je veux dire. Mais il avait raison. Quelques années plus tard, j'ai vu exactement ce qu'il voulait dire. Et à ce moment-là, j'ai d'abord repensé à Norma Den quand il disait qu'il faisait toujours froid dans la cellule d'Andy. Quelque chose de terrible est arrivé à Andy fin mars ou début avril 1963. Je vous ai dit qu'il avait quelque chose qui semblait manquer à la plupart des autres prisonniers, moi compris. Appelez ça une sorte de sérénité, un sentiment de paix intérieure, peut-être même une foi constante et inébranlable dans la fin de cet interminable cauchemar. Appelez ça comme vous voulez, mais Andy Dufresne n'avait jamais l'air d'être à côté de ses pompes. Rien en lui de ce désespoir morose qui gagne tôt ou tard la plupart des condamnés à perpète. Jamais il ne donna l'impression d'être désespéré, jusqu'à cet hiver de 1963. Nous avions un nouveau directeur, un nommé Samuel Norton. Les pères fondateurs se seraient retrouvés en terrain de connaissance avec ce Sam Norton. Pour ce que j'en sais, personne ne l'a jamais vu sourire. Il portait un insigne célébrant ses 30 ans à l'église baptiste adventiste d'Elliott. Son innovation principale en tant que chef de notre heureuse petite famille a été de faire fournir un Nouveau Testament à chaque prisonnier qui entrait. Sur son bureau, il avait une petite plaque en teck incrustée de lettres d'or, disant « Christ est mon sauveur ». Au mur, une broderie faite par sa femme. « Le jugement est proche ». Cette idée laissait de glace la plupart d'entre nous. Nous estimions que le jugement avait déjà eu lieu, et nous étions prêts à témoigner que le rocher ne nous avait pas cachés ni l'arbre mort abrité. Il avait une citation de la Bible pour chaque occasion, ce monsieur Sam Norton. Et si vous rencontrez jamais un type dans son genre, je vous conseille de lui faire un grand sourire et de vous planquer les couilles à deux mains. Il y avait moins de types à l'infirmerie qu'à l'époque de Stamas. Et pour ce que j'en sais, les enterrements au clair de lune avaient pris fin. Mais ce n'est pas dire que Norton ne croyait pas au châtiment. Le mitard ne manquait pas de pensionnaires. Les types ne perdaient plus leurs dents sous les coups, mais à cause du régime au pain et à l'eau. On s'est mis à dire au pain et au chien, comme par exemple « Je suis dans le wagon de Norton, les mecs, au pain et au chien ». Je n'ai jamais vu un hypocrite aussi puant atteindre un poste aussi élevé. Les raquettes dont je vous ai parlé ont continué à prospérer, perfectionnées encore par Sam Norton. Andy les connaissait tous. Comme à l'époque nous étions devenus assez bons amis, il m'en a dévoilé quelques-uns. Quand il en parlait, c'était avec une sorte de dégoût amusé, étonné, comme s'il me décrivait une espèce d'insecte particulièrement ignoble et rapace, que sa laideur et sa rapacité même rendaient plus comique que redoutable. C'est le directeur Norton qui a institué le programme « Dedans dehors », dont vous avez peut-être entendu parler il y a 16 ou 17 ans. Il y a même eu un article dans Newsweek. La presse l'a montré comme un vrai progrès dans les techniques de réhabilitation pénitentiaire. On envoyait des prisonniers couper des boulots, réparer des ponts et les digues, construire des silos à pommes de terre. Norton appelait ça « Dedans dehors ». Et chaque foutu Rotary ou Kiwani Club de Nouvelle-Angleterre l'a invité à venir l'expliquer, surtout après que Newsweek eut publié sa photo. Les prisonniers appelaient ça « casser des cailloux ». Mais à ce que j'en sais, on n'en a pas invité un seul à exprimer son opinion aux Kiwaniens ou à l'ordre de l'élan sacré. Norton ne manquait pas une seule sortie, un signe baptiste et toute la panoplie. Qu'on coupe du bois, qu'on creuse des fossés en cas d'orage, qu'on pose des conduits le long des autoroutes, Norton était là et prélevait son pourcentage. Il touchait à tous les râteliers, la main-d'œuvre, les matériaux, ce que vous voudrez. Mais ça lui venait aussi par l'autre bout. Les entrepreneurs du coin avaient une trouille mortelle de son programme « Dedans, dehors ». Les prisonniers, ça travaille comme des esclaves. Personne ne peut les concurrencer. Alors Sam Norton, avec son Nouveau Testament et son épingle commémorative, a touché de confortables dessous de table pendant les 16 ans qu'il a dirigé la prison. Quand il recevait son enveloppe, il gonflait son devis, ou alors il n'en faisait même pas, ou encore il prétendait que tous ses « dedans dehors » étaient engagés ailleurs. Je me suis toujours étonné qu'on n'ait pas trouvé Norton dans le coffre d'une Thunderbird garée au bord d'une route du Massachusetts, les mains liées derrière le dos et 6 balles dans la tête. En tout cas, comme dit la vieille chanson de Bastringue, « Mon Dieu, comme le fric s'entassait !» Norton devait être de l'avis des anciens puritains. Pour savoir à qui Dieu sourit, vérifie son compte en banque. Andy Dufresne était son bras droit. Il trempait dans toutes les combines. La bibliothèque de la prison faisait figure d'otage. Norton le savait et s'en servait. Andy m'a dit quel était le proverbe favori du directeur. « Une main lave l'autre. » Alors il lui donnait de bons conseils. Des idées utiles. Je ne suis pas certain qu'il ait peaufiné le programme dedans dehors, mais foutrement sûr qu'il a blanchi le fric pour ce fils de pute de bon apôtre. Il donnait ses conseils, ses bonnes idées, dispersait les dollars et saloperie. La bibliothèque recevait une nouvelle série de manuels de mécanique, la dernière édition de l'encyclopédie Grolier, des livres pour préparer aux examens scolaires. avec, bien sûr, d'autres Earl Stanley Gardner et Louis L'Amour. Je suis persuadé que tout cela est arrivé parce que Norton ne voulait surtout pas perdre son bras droit. J'irai plus loin. C'est arrivé parce qu'il avait peur de ce qui pourrait se passer, de ce qu'Andy pourrait raconter sur lui s'il arrivait jamais à sortir de Shawshank. Il m'a fallu 7 ans pour reconstituer cette histoire, bribe par bribe. Andy m'en a dit un peu, mais pas tout. Il ne voulait jamais parler de cette période, et je ne lui en veux pas. Des éléments m'ont été fournis par une demi-douzaine de types, au moins. Les Tollards ne sont que des esclaves, je l'ai déjà dit. Mais comme les esclaves, ils ont l'habitude de jouer au con et de laisser traîner leurs oreilles. On me l'a raconté à l'envers, à l'endroit, par le milieu. Mais je vais vous la raconter de A jusqu'à Z. Et vous comprendrez peut-être pourquoi ce type est resté environ 10 mois plongé dans une torpeur sinistre, complètement déprimé. Voyez-vous, je ne crois pas qu'il ait appris la vérité avant 1963, 15 ans après son entrée dans notre charmante petite GN. Jusqu'à ce qu'il ne rencontre Tommy Williams, je ne crois pas qu'il ait compris à quel point elle peut être féroce.